Au verset 5, et l'Éternel parla à Moïse, disant, fais approcher la tribu de Lévi. Fais là se tenir devant Aaron le sacrificateur, afin qu'il le serve, et qu'il accomplisse ce qui appartient à son service et au service de toute l'assemblée devant la tente d'assignation pour faire le service du tabernacle. Et ils auront la charge de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui se rapporte au service des fils d'Israël pour faire le service du tabernacle. Et tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui sont absolument donnés, donc de les fils d'Israël. Et tu établiras Aaron et ses fils afin qu'ils accomplissent les devoirs de leur sacrificature. Et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Et moi, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des fils d'Israël à la place de tout premier-né, donc de les fils d'Israël qui ouvrent ma fille. Et les Lévites seront à moi. Car tout premier-né est à moi. Le jour où j'ai frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi. Je suis l'Éternel. Un peu plus loin, au verset 32, et le prince des princes de Lévite était Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Il était établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. Chapitre 4. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, relève la somme des fils de Kehath, donc des fils de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de terre, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui ont en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. C'est ici le service des fils de Kehath, dans la tente d'assignation. C'est une chose très simple. Lorsque le camp partira, Aaron et ses fils entreront et démonteront le voile qui sert de rideau et en couvriront l'âge du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau à caisson et tendront par-dessus un drap tout de bleu, et ils y placeront les barres. Et ils étendront un drap de bleu sur la table de pain de proposition, et mettront sur elle les plats et les coupes et les vases et les gobelets de libation, et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront sur ces choses un drap d'écarlate, et ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y placeront les barres. Et ils prendront un drap de bleu et en couvriront le chandelier de lumière et ses lampes et ses mouchettes et ses vases à cendre et tous ses vases d'huile dont on fait usage pour son service. Et ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de tesson et le mettront sur une paire. Et sur l'autel d'or, ils étendront un drap de bleu et le couvriront d'une couverture de peau de tesson. Et ils placeront les barres, et ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront dans un drap de bleu, et les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur une paire. Et ils offriront les cendres de l'autel, et ils étendront sur lui un drap de pourpre. Et ils mettront dessus tous ces ustensiles dont on fait usage pour son service. En tournant la page au verset 16. Éléazar, le fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile, du luminaire et de l'ensemble des droits du donitérant et de l'offrande de gâteau continuel et de toute de l'onction, la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qui y est, du lieu saint et de ses ustensiles. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, ne faites pas que la tribu des familles des Kehathites soit retranchée dans ceux des Lévites. Et faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas, en s'approchant du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et les placeront chacun à son service et à son fardeau. Et ils n'entreront pas pour voir quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas. Enfin, le verset 46. Tous ceux qui furent dénombrés, que Moïse et Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent, savoir le Lévite, furent au verset 48, 8580. Nous arrêterons là pour l'instant. Il pourrait sembler, chers amis, que ces récits de l'Ancien Testament n'offrent qu'un intérêt bien relatif, liés qu'ils sont aux coutumes, aux ordonnances que l'Éternel avait recommandées pour son peuple terrestre. Mais, bien au contraire, nous savons que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Ce sont des images, des types, des figures remplies d'enseignements, d'instructions, d'édification et d'encouragement pour nous. Dieu se sert de figures, de types, pour nous parler, s'adaptant en quelque sorte à notre vue limitée, à la condition de faiblesse dans laquelle nous nous trouvons encore, ne connaissant, ne saisissant qu'en partie. Et par des images, comme le dit un de nos chers devanciers, Dieu adapte à notre vue la connaissance, la compréhension des grandes vérités qui sont développées dans le Nouveau Testament. Mais, chose remarquable, il les adapte à notre vue avec une exactitude divine. C'est là une des marques de la beauté des Écritures. Ce qui veut dire, hein, cher frère, Dieu a ainsi caché le Nouveau Testament dans l'Ancien. Et il révèle l'Ancien dans le Nouveau, faut-il le dire. L'histoire des fils de Lévi, qui traversent l'Ancien Testament, pour quiconque veut s'y attacher, est une histoire vraiment intéressante, pleine d'apport, pleine de beauté. D'abord, il convient que nous rappelions qui est Lévi. Fils de Jacob, il s'est associé avec son frère Siméon dans des actes de violence qui rempliront Jacob, le père, de tristesse, de consternation. Il s'en rappellera jusqu'au soir de sa vie. Et il rappellera, avant de s'en aller, dans les bénédictions de ses fils, il rappellera, hélas, leur attitude toute de violence, fruit du péché, dont son premier-né, c'était la corruption. Dans Lévi et Siméon, c'était la violence, deux manifestations cardinales du péché, de la propre volonté en nous, de la chair, du vieil homme. Mais la grâce de Dieu est intervenue, elle a touché Lévi, comme elle a touché sans doute la plupart d'entre nous. Un jour, la grâce de Dieu nous a rencontrés, et la bonté de Dieu a fait fondre notre cœur devant la manifestation éclatante de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons été saisis. Au pied de la croix, nous avons compris quelque chose de l'amour de Dieu, l'amour insondable, éternel de notre Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, nous a vivifiés, et il nous a vivifiés avec son Fils, nous unissant avec lui dans la puissance de sa vie de résurrection victorieuse, triomphante de la mort. Au pied de la croix, nous avons réalisé aussi ce que nous étions, sans ressources, perdu, sans secours à attendre de qui que ce soit, ni d'aucun système, ni d'aucune morale, ni même de la loi, ministère de mort et de condamnation, elle mit le péché sur moi, et elle me condamne sans appel. Mais Lévi, un jour, son cœur a été touché par la grâce de Dieu, comme pour un autre grand serviteur de Dieu, dont chacun se rappelle l'origine, c'était un benjaminite. Et précisément, Jacob, à l'égard de Benjamin, dira « c'est un loup qui déchire ». Tel était ce benjaminite, qui portait le nom d'un ancêtre illustre, Saül, Saul de Tars, montrant bien cette nature opposée à Dieu, sanguinaire même. Il rappellera avec beaucoup de tristesse sans doute, j'étais présent et consentant quand le sang de ton témoin Étienne était répandu. Mais de ce loup qui déchire, Dieu a fait par grâce un serviteur d'une qualité exceptionnelle. Celui qui déchire, son cœur a été entièrement changé, non pas amélioré, non pas la chair améliorée, mais le nouvel homme créé à l'image de Christ en lui, et qui aurait donné sa vie tout de suite pour le Seigneur et pour les frères. Parlant de son amour pour les frères comme d'un père, comme d'une nourrice pour ses propres enfants, comme d'un frère. Quelle différence! Encore un mot à l'égard de ce changement chez Lévi. Chez Siméon, nous ne le retrouvons pas dans les bénédictions de Moïse, au chapitre 33 du livre de Deutéronome. Il y a là une omission qui mérite d'être retenue. Comment se fait-il que ces deux frères, associés dans des actes de violence, nous ne les retrouvions pas ensemble lorsque Moïse prononce les bénédictions sur chacun des fils de Jacob? Nous pouvons conclure rapidement. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Autant il y a eu un changement certain chez Lévi, autant le cœur de Siméon est resté fermé. Nous n'en voulons pour preuve que la sagesse de Joseph, qui a bien discerné ce qui était Siméon, quelle était sa personnalité, son caractère inflexible, la chair si violente, si énergique en lui. C'est Siméon que Joseph fait rester en Égypte pendant que ses frères remontent vers leur père. Lévi, un jour, mettra toute son énergie non plus au service de la chair, mais au service de Dieu. Dieu se sert de nos qualités, de nos facultés, lorsque nous les mettons bien humblement à son service. Il y a deux hommes d'une même famille pour nous faire comprendre, Caleb et Nabal. Il est dit de Nabal qu'il était de la famille de Caleb. Mais l'un met son énergie au service du moi, au service de la chair. Et son cœur devient une pierre. Il a l'image d'Israël apostat. Tandis que Caleb, cette même énergie naturelle, il la met au service du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu se plaît à rappeler l'histoire de ce vieillard énergique qui, à 85 ans, était encore à même de sortir et d'entrer, c'est-à-dire de servir, et de sortir son épée pour la gloire de l'Éternel. Nous le verrons peut-être tout à l'heure, si nous en avons le temps. Voici donc Lévi qui s'est tourné vers le Seigneur et qui va recevoir maintenant un service des plus précieux, car Dieu va choisir la tribu de Lévi pour en faire celle qui s'approche de lui, qui s'occupe du service du sanctuaire, qui est la plus privilégiée en Israël. Elle représente les premiers nés, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. La vigueur d'un homme, le Seigneur l'appelle le premier-né, le commencement de ta vigueur. Et tout aussitôt, la Pâque intervenue et la délivrance du peuple en Égypte réalisée, l'Éternel dit tout de suite, sanctifie-moi tout premier-né, il est à moi. Au bénéfice de la rédemption, étant délivré de la fournaise d'Égypte,
de l'esclavage du Pharaon, le peuple désormais appartient à Dieu. Et d'une manière particulière, dans le chef des premiers-nés, le commencement de la vigueur, ce qu'il y avait de meilleur en Israël, Dieu dit, ils sont à moi, ils m'appartiennent. Comment parle le Nouveau Testament ? Ne parle pas d'une autre manière. Ils étaient à toi, le Seigneur anticipe, l'œuvre de la croix, le sang précieux qui allait être répandu, sa propre vie donnée. Et il peut dire, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car c'est bien de lui qu'il s'agit, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, afin qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Nous en avons fini avec notre condition antérieure, avec ce que nous étions comme homme en la chair. Nous appartenons désormais à Dieu. Nous sommes la propriété du Seigneur pour être une lumière pour lui dans ce monde, pour marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et la bonne œuvre par excellence, quelle est-elle? Nous l'avons souvent entendu. Le Père en chair de tel qu'il adore. Lorsqu'il rencontre cette pauvre femme, isolée par sa misère, par sa souillure, ayant accompli un long chemin à travers la Samarie pour la rencontrer au bord du puits, il lui parlera du désir du Père, du souhait du cœur du Père d'être connu, de se révéler. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'œuvre par excellence, la première, par grande importance, tout sérieux, tout important que soit le service, mais la sainte sacrificature, qui consiste à offrir des sacrifices spirituels, a le pas sur la sacrificature royale qui consiste à annoncer les vertus de celui qui nous a tiré des ténèbres, amené des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous serons tous de la mettre, peut-être qu'il est opportun de le rappeler. Alors la première chose que le Seigneur demande de chacun de nous, chers amis, c'est précisément de nous souvenir que le Seigneur nous a achetés à grand prix, que nous sommes à lui, que nous avons à le glorifier. Et la première manière de le glorifier, c'est de nous souvenir de ce qu'il nous dit avant de s'en aller à la croix. J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. Et en présence des symboles qu'il a institués, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. De même aussi la coupe après le souper. Dans leur muet langage, ne parlent-ils pas de la manière la plus éloquente à chaque cœur renouvelé? Lévi doit donc entrer dans la possession et la jouissance, le privilège d'un service du plus haut prix. S'étant tourné vers le Seigneur, le chapitre 33 de Deutéronome indique pour lui deux fonctions essentielles, l'enseignement de la parole de Dieu et le culte. Lévi aura trois fils, Gershon, Kehath, Merari. Par voie d'élection, Kehath, le fils du milieu, sera celui qui aura les privilèges les plus élevés. Car en effet, en descendant par Kehath, qui lui aura quatre fils, nous savons bien que l'un d'eux s'appelle Amram et est le père de Moïse et d'Aaron. Et de la famille d'Aaron, Dieu va faire la sainte sacrificature. De sorte que toute cette famille de Lévi sera donc associé dans un service pour l'Éternel, mais au milieu d'eux, une famille particulière pourra faire dans le tabernacle, dans le lieu saint, avec les ustensiles précieux pour les envelopper. Et alors les fils de Kéat les transporteront à travers le désert. Pour nous, il y a là un enseignement que nous allons essayer de résumer en deux mots, car tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs provenaient de la famille de Lévi, mais tous les Lévites n'avaient pas le privilège d'être sacrificateurs, c'est-à-dire fils d'Aaron, Aaron type de Christ, notre grand souverain sacrificateur de notre confession. Aaron et ses fils, qui sont une image bien connue de l'Assemblée, formant une seule famille, premier-né au milieu de plusieurs frères. Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils afin qu'il soit premier-né au milieu de plusieurs frères, Aaron et ses fils. Image de l'Assemblée, au privilège incomparable, mais ce qui n'était pas possible pour eux l'est pour nous. Car en effet, nous sommes tous à la fois lévites et sacrificateurs. C'est-à-dire, nous avons déjà vu en quelques mots tout à l'heure, nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Dans cette optique, nous sommes donc tous des serviteurs. Personne n'a été sauvé pour demeurer inactif. Tous, nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Les Lévites représentent donc les différents services qui sont à remplir pour la gloire de Dieu, pour le bien de la famille d'Aaron, car nous avons lu, ils sont absolument donnés à Aaron et à ses fils. Tous les services que nous avons à remplir sont liés à la bénédiction de l'Assemblée, sont donnés en vue de la bénédiction de l'Assemblée. Sur ce plan, il y a toujours sans doute égalité, mais dans la diversité. Tandis qu'il y a toujours, pardon, unité, mais dans la diversité. Tous les services ne sont pas les mêmes. Mais il est remarquable que dans le chapitre 4, nous ayons les mêmes expressions que dans l'Épître aux Corinthiens. Cela est assez frappant. 1 Corinthiens 12, Dieu opère tout et en tous. Par son esprit. Et à chacun est donné une charge ou un service ou un don. Dieu opère tout en tous et à chacun est donné une fonction. Et nous retrouvons précisément dans le verset 47 de notre chapitre 4, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient pour s'employer à l'œuvre du service. Et au verset 49, au milieu du verset, par Moïse, chacun selon son service. Tous ceux qui entraient en service, tous les Lévites, et à chacun selon son service. Dieu opère tout et en tous, et à chacun il donne une fonction, une tâche à accomplir. Nous avons souvent entendu rappeler ces vérités, elles sont importantes, elles sont utiles. Il y a donc unité dans la diversité. Par contre, dans le service de la sacrificature, il y a toujours unité et parfaite égalité. Car tous nous sommes sacrificateurs sur un plan d'égalité. Un frère qui se lève dans l'assemblée pour rendre grâce au culte, par exemple, ne remplit pas une fonction entre l'assemblée et le Seigneur. Il est simplement l'organe, la voix de l'assemblée pour dire ce que tous les cœurs ressentent. Il n'y a donc plus de classe privilégiée. Nous sommes devenus, de pierres mortes que nous étions dans le monde, des pierres vivantes, introduites dans la maison de Dieu, établies sur la maîtresse pierre du coin qui est Christ, comme une sainte sacrificature, étant devenue une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels. Il n'y a donc pas de clergé, pas de classe établie. Nous sommes tous des sacrificateurs sur un plan d'égalité. unité et égalité. Si nous envisageons les croyants comme lévites, c'est-à-dire dans, sous l'aspect de leur charge, de leur service, de leurs diverses fonctions, il y a toujours l'unité sans doute, mais dans la diversité. Le service d'un frère n'est pas celui d'un autre, le service d'une sœur n'est pas celui d'un frère et vice-versa. Mais chacun, nous avons quelque chose à remplir. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous aimerions, chers amis, aborder la famille, le service de la famille de Kehath. Nous avons donc dit tout à l'heure que Kehath occupe par voie d'élection un rang important, un rang privilégié, et c'est à la famille de Kehath que seront confiées, que sera confiées les choses les plus précieuses. C'est à partir de Kehath, d'ailleurs, en descendant par Abraham, que nous avons les sacrificateurs. Alors tous nous avons quelque chose à faire. Tous nous avons une tâche à remplir. Il faut travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient pour laquelle personne ne peut travailler. Et le Seigneur nous donne d'abord pour les fils de Lévi une condition primordiale, préliminaire, impérative. Que fallait-il faire avant d'entrer, au avant d'entrer dans le service? Car le service de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, quand nous sommes dans le chapitre 4, c'était une chose très simple. Si nous avions le temps, mais nous pouvons le faire chacun pour nous-mêmes, il fallait d'abord purifier les Lévites. Non seulement Dieu les avait pris pour lui-même, mais il nous montre comment nous devenons, comment nous entrons dans la famille de Dieu. Son dessein était de nous amener devant lui, mais par quel moyen? Par le moyen d'un sacrifice, par le moyen du lavage d'eau, par le moyen de la rédemption, par le moyen de la parole qui opère en nous, née d'eau et de l'esprit, et de son côté percé et en sortir du sang et de l'eau, par le lavage de la régénération qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, et le renouvellement de l'Esprit Saint, le sang d'autre part qui purifie de tout péché. Il fallait offrir un taureau comme holocauste, un taureau comme sacrifice pour le péché, purifier les fils de Lévi par le lavage d'eau, raser tous leurs poils, changer leurs vêtements, laver leurs vêtements. Que de figures intéressantes pour nous montrer la sainteté qui sied à la maison de Dieu. À cet égard, ajoutons, chers amis, nous nous embarrassons de quelques détails, mais nous aimons quand même rappeler celui-ci. Nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part. Nous sommes rendus tels par l'opération de la grâce de Dieu en nous. Et par l'œuvre du Seigneur, à laquelle nous avons part, par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, par la rédemption qui est dans son Fils, au prix de son sang qui a été répandu, nous sommes rendus parfaits devant Dieu. Paul dira saint, irréprochable et irrépréhensible. Saint, c'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est venu au pied de la croix, si quelqu'un est lavé dans le sang précieux de l'agneau, il est saint, il reçoit une nouvelle nature qui correspond à la nature même de Dieu. Il est irréprochable, il n'y a plus aucun reproche à lui faire. Saint et agréable dans le bien-aimé, Dieu nous voit au travers de l'œuvre de Christ. Irrépréhensible, plus rien ne met à la charge du croyant. Pas une seule offrande, elle a une telle valeur pour Dieu, accomplie une fois pour toutes. Nous sommes rendus saints, irréprochables et à perpétuité. C'est la sainteté positionnelle comme on l'a souvent entendu. Mais parce que Dieu nous a établis par grâce dans cette position de faveur, nous avons alors, non pas d'une manière contraignante ou légale, mais nous avons à marcher en relation avec cette position que nous occupons devant Dieu en Christ, c'est-à-dire soyez saints comme moi je suis saint, en nous séparant de tout mal quel qu'il soit. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, ce n'est pas la loi cela, mais nous avons une nature dont le Saint-Esprit est la puissance qui aime à faire la volonté de Dieu. parce que cette volonté de Dieu répond à au désir de cette nature. Car la nature humaine, telle que nous l'avons, la nature adamique, elle est justement l'opposé. Elle refuse de faire ce que Dieu demande parce que c'est Dieu qui le demande, et elle accomplit ce qu'il défend parce que c'est Dieu qui le défend. Mais la nouvelle nature que nous avons reçue par grâce, Christ en nous, aime à faire la volonté de Dieu. De sorte que la sainteté pratique doit correspondre, si nous pouvons parler ainsi, à la sainteté positionnelle que nous occupons devant Dieu en Christ. D'où cet enseignement que nous avons ici, laver les vêtements, raser tout son poil, c'est-à-dire tenir la chair où Dieu l'a placée, c'est l'enseignement de l'Épître aux Romains, chapitre 6. Vous êtes morts, dit le Seigneur. Dieu nous considère comme en ayant fini, comme en Adam. Il ne nous est pas dit de mourir, ce qui serait bien difficile et bien cruel. La chair n'accepte pas de mourir, mais Dieu nous dit, vous êtes morts. Il a tué l'homme en Adam dans la croix de son Fils. Il a annulé la chair. La conséquence pratique, Paul nous la donne, tenez-vous vous-même pour mort au péché. Sachant ceci, croyant ceci, que votre vieil homme a été crucifié, et la conséquence, en tenant ce vieil homme dans la mort où Dieu l'a placé, voilà la délivrance. Nous pouvons alors marcher en nouveauté de vie, délivrés de la tyrannie du moi du péché sur nous. Le rasoir qui passe sur la chair, les vêtements lavés, tout ce qui concerne la purification des fils de Lévi avant d'entrer dans l'exercice du saint service que Dieu leur a confié. Occupons-nous maintenant quelques instants, si vous voulez bien, du service des fils de Kéat. C'est un service que nous avons à remplir, qu'ils avaient à remplir dans le désert. Fallait donc, Dieu ayant établi sa demeure au milieu d'eux, ayant fait de son peuple, ayant fait d'Israël son propre peuple, il veut habiter au milieu d'eux. C'est une pensée bien douce que Dieu parle d'une habitation, chose réalisée maintenant pleinement selon le dessein de son cœur. Dieu parle d'une habitation au milieu de son peuple, après la rédemption accomplie. Dieu ne parle jamais d'habiter avec quelqu'un avant l'agneau qui a été égorgé, dont le sang a été aspergé sur chaque maison des fils d'Israël. Mais dès lors, nous pouvons parler, nous entendons parler du dessein de Dieu d'habiter avec l'homme, pensée des plus douces, des plus précieuses. Il habitait dans le tabernacle et il accompagnait son peuple à travers tout le chemin du désert. C'est une des réalités précieuses pour le cœur du croyant. Réaliser que nous avons le chemin du désert à terminer, d'une part, c'est l'épître de Pierre, et d'autre part, déjà dans les lieux célestes. Mais n'abordons pas plusieurs sujets à la fois, nous allons nous égarer. Contentons-nous maintenant de considérer les fils de Kéat dans le service qu'ils avaient à rendre au désert. Figure, image de ce que le Seigneur nous a confié à tous. Sommes au désert, nous arrivons au bout, quelques instants encore et nous serons avec le Seigneur, et nous avons un service à remplir. Nous avons des fonctions, nous avons des services que le Seigneur attend de nous. Quel est le premier service confié au fils de Kéat? Un service à l'égard duquel on ouvre la note qui comporte labeur, souffrance et guerre. Le service que nous accomplissons, service que le Seigneur nous a confié, et la vie du croyant d'ailleurs se développe, se déploie sur une scène où l'ennemi est à l'heure. Nous ne sommes pas chez nous. La procession du Saint-Esprit nous introduit dans le combat. Et ce combat chrétien, et bien si, comporte effectivement labeur, souffrance et guerre. Mais l'Ancien Testament n'ajoute pas cette note, cette explication, à cette signification du service, ce que le Nouveau Testament ajoutera dans le chef de Paul, par exemple, connaissant les labeurs, les souffrances et la guerre, comme pas un, mais il ajoutera ce qui est si précieux pour le cœur du croyant, en le considérant dans sa source, dans la richesse de sa source, encore une fois, dit-il, bien que ça vous le sache, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Réjouissez-vous donc, Seigneur. Labeur, souffrance et guerre sont nous, mais joie d'un niveau, d'une qualité, d'une richesse insurpassable. C'était l'homme sans doute le plus heureux de la terre, connaissant les labeurs, les souffrances et la guerre, mais connaissant le cœur de Christ, le Seigneur qui se tient près de moi, dit-il, pour parler avec moi et qui m'a dit ma grâce te suffit. N'est-ce pas une source de joie incomparable que d'entendre la voix du Seigneur, de le réaliser, de le connaître à côté de nous? Alors il nous aide dans le service que nous avons à accomplir, dans la charge qu'il nous a confiée, quelle qu'elle soit, si insignifiante puisse-t-elle paraître. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Les fils de Kéa avaient donc un service important à accomplir. Quelle est la première chose que l'Esprit de Dieu place devant nous? Quelle est la première chose que le Seigneur attend de nous, chers amis? C'est de maintenir la vérité sans équivoque aucune. Au moment où elle est battue en brèche, où l'ennemi s'acharne contre cette vérité fondamentale, capitale, sans laquelle il n'y a pas de salut, sans laquelle il n'y a pas de pardon de péché, sans laquelle il n'y a pas de ciel ouvert, sans laquelle il n'y a pas la connaissance de Dieu comme Père, c'est-à-dire le maintien des gloires de Christ, vrai Dieu et vrai homme tout à la fois. L'union de la divinité toute-puissante à l'humanité dépendante, mystère inscrutable que nul ne sonde, mais que Dieu a réservé pour lui-même à sa propre connaissance. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. La première chose placée devant nous, c'est Christ vu dans l'âme. C'est une chose très simple que le service des fils de théâtre, lorsque le camp partira. Il fallait démonter, Aaron et ses fils démontaient le voile qui était sur le rideau, et sans regarder l'arche sans doute, en reculant, laissaient tomber le rideau sur l'arche, puis le recouvraient d'un voile tout de bleu. Un homme qui est venu du ciel, un petit enfant, à l'égard duquel les anges disent, ceci sera le signe pour vous, le signe le plus éclatant de la faveur de Dieu. Vous verrez un petit enfant emmailloté, couché dans une crèche. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été vu des anges. Mystère pour eux, mystère insondable. Voir leur Créateur s'anéantir lui-même, s'abaisser lui-même, revêtir notre humanité sans tache, prendre part, participer au sang et à la chair, en vue de souffrir et de mourir pour sa pauvre créature. L'arche de bois de Sittim, rappelant son humanité, ce qui sort de la terre, recouverte d'orpure à l'intérieur et à l'extérieur, et dans un seul terme, en comparant les notes que nous avons au bas du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas une chose admirable? La plénitude de la déité a habité en lui corporellement. L'Orient d'en haut nous a visités, et en même temps, le germe qui sort de la terre, qui germe de son propre lieu. Dans l'Orient d'en haut, nous avons le lever, correspondant au germe, à la racine qui sort d'une terre aride. Dans un seul mot, l'Esprit de Dieu réunit les gloires de Christ, sa gloire divine et sa gloire humaine. L'arche, voie de Sittim, recouverte d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, l'union de l'humanité dépendante à la divinité toute puissante, ce qu'il est dans sa sainte et adorable personne. Et ce qui est requis d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et Dieu nous demande de maintenir ce fondement, cette vérité fondamentale. La première chose confiée au fils de Kéab, c'est l'arche. L'arche comportant le propitiatoire, non seulement ce qu'il est dans sa personne, mais ce qu'il a été dans son œuvre, dans la valeur du sang qui a été répandu à la croix et qu'il a porté lui-même à l'intérieur du lieu très saint, entré avec son propre sang dans son sanctuaire. Ce que nous sommes dépend sans doute de la valeur de ce sang précieux. Mais ce sang précieux est en relation avec la gloire de la personne qu'il a donnée. Le jour des propitiations, le sacrificateur en entrant, le souverain sacrificateur en entrant avec le sang dans le lieu très saint, était entouré de cette nuée d'encens qui nous parle des gloires de Christ, de l'excellence de sa personne, l'encens pur, salé, pur, saint. N'a pas connu le péché, n'a pas commis de péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous. Pas de péché en lui. Trois déclarations des apôtres, Paul, Pierre et Jean, pour attester que cet encens était salé, pur, saint, et il entourait d'un nuage le souverain sacrificateur qui présentait le sang, ce qu'il est dans sa personne. Donnons valeur efficace au sang précieux qui a été répandu. Le sang, la vie offerte, Dieu a été glorifié. Dieu peut maintenant, acquis ce droit de nous bénir, de faire reposer sur nous toute sa faveur, introduit dans la faveur même de Dieu. Grâce au sang répandu, au don de sa vie, l'arche, roi de Sittim, offre le propitiatoire. Il y a ensuite ce que nous sommes devenus par grâce. Et nous avons dans l'arche la couverture d'un voile de bleu pour nous montrer qu'il est venu du ciel, qu'il est mort, qu'il est descendu dans le tombeau, mais que celui qui est descendu dans les parties inférieures de la terre est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il y a maintenant un homme glorifié au ciel, précurseur de tous ceux pour lesquels sa vie précieuse a été donnée. Christ des prémices, la gerbe des prémices, balancée, présentée à l'Éternel, et qui est liée avec toute la moisson qui va suivre. Lorsqu'à sa voix puissante, lorsque la trompette de Dieu, car la trompette de Dieu sonnera, et à la voix de l'archange, les morts en Christ premièrement seront ressuscités, et nous nous serons changés, pour que ce mortel soit absorbé par la vie, et ce corruptible revête l'incorruptibilité. Et en nous en allant tous ensemble, nous allons nous écrier, où est, ô mort, ta victoire? Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. Dans le second, dans l'ustensile qui suit, nous avons les privilèges dans lesquels nous sommes établis. C'est la table des pains de proposition, toute d'or également, sur laquelle il y avait, à laquelle il y avait un couronnement d'or, et les 12 pains qui étaient là, parlant des 12 tribus d'Israël, table éclairée par le chandelier. Quelle figure saisissante! Les pains, on les remplaçait chaque sabbat. Chaque premier jour de la semaine, il nous est donné, il nous est accordé ce précieux privilège d'annoncer la mort du Seigneur. Mais non seulement nous rappelons dans la scène du Seigneur ce qu'il est, la valeur de son œuvre, l'efficacité de celle-ci, ce que le Seigneur est pour nous. Mais nous rappelons aussi la scène, rappelle donc l'amour du Seigneur pour nous, mais aussi, en prenant la scène ensemble, nous exprimons, par ce qu'elle est entre nous, la communion du corps de Christ. Chaque sabbat, on remplaçait des pains. Chaque premier jour de la semaine, nous annonçons la mort du Seigneur, sans doute, jusqu'à ce qu'il vienne, selon cette révélation que le Seigneur a donnée depuis le ciel à son serviteur l'apôtre Paul, Et en même temps, selon 1 Corinthiens 10, nous exprimons ce privilège extraordinairement élevé. Sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous un seul et même pain. Et quelle que soit la ruine de l'Église, quelle que soit la ruine à laquelle nous avons mis la main et qui est un motif de consternation, d'humiliation pour chaque croyant quelque peu éclairé à l'égard de ces précieuses vérités, il n'en demeure pas moins qu'il y a un seul corps et que l'infidélité générale de l'Église, comme corps responsable, ne peut anéantir, ne peut altérer, ne peut abroger les déclarations divines. Et comme au plus beau jour de l'Église, nous pouvons dire maintenant un seul corps dont nous avons l'expression dans le pain de la scène. Et dans ce pain de la scène, ne serions-nous que deux ou trois à nous rappeler de ce saint et précieux privilège. Nous envisageons non pas les croyants seulement de la localité à laquelle nous appartenons, mais nous envisageons le corps tout entier, l'ensemble de tous les croyants, dans nos cœurs, dans nos affections. Nous nous sentons unis à eux par un lien divin, indestructible, c'est-à-dire le Saint-Esprit, baptisé d'un seul esprit, pour être un seul corps. Que la manifestation de ce corps ne soit plus visible, nous avons à le déplorer, c'est le résultat de nos infidélités. Mais ce corps n'en existe pas moins. Et quelqu'un connaît cette comparaison qui a certainement beaucoup de valeur pour éclairer la pensée, c'est la chaîne qui part dans le livre des Actes et que nous allons voir maintenant de l'autre côté de la rivière lorsque le Seigneur vient. Il aura son assemblée telle qu'il la désire. Christ a élevé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle et il va se la présenter à lui-même glorieuse. Mais en attendant, cette chaîne, elle se trouve dans la rivière, dans le lit de la rivière, dans la vase au fond de la rivière. Elle n'est plus visible. Elle fut visible au commencement, lorsque les assemblées étaient en paix, lorsque l'Esprit de Dieu opérait puissamment, renversant les forteresses, comme Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Hélas, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Nous n'avons pas fait beaucoup de chemin avant que l'ennemi ait réussi à altérer, à dégrader ce que le Seigneur nous avait confié. Mais au-delà de toutes les ruines, de toutes les infidélités, il aura son assemblée, ferme de si grand prix, telle que son cœur la désire. Les 12 pains sont sur la table. Quoi qu'il en soit de la dispersion d'Israël, Dieu considère Israël tout entier formé de 12 tribus. Et il y rétablira l'autel, malgré le schisme, l'autel de 12 pierres. Au temps des grâces, l'autel sera rétabli sur son emplacement. Et l'apôtre parlera de nos 12 tribus. Alors que dix sont perdus depuis l'intervention du roi d'Assyrie, perdus que personne sans doute ne pourrait retrouver. Mais Dieu maintient, Dieu nous montre que cette unité est maintenu par lui, par les 12 pains sur la table, qui comportent un couronnement d'or tout autour, pour que les pains soient là, bien établis. Nous avons à maintenir cette vérité. Après l'arche, c'est la table des pains de proposition qu'il fallait porter dans le désert. Mais nous n'avons plus le drap de bleu autour de la table, nous avons une couverture de peau de tesson. Car nous sommes au désert, et le tesson, animal craintif, qui trouve sa sécurité dans la fuite, est un enseignement pour nous, car nous avons à marcher soigneusement. Prenons garde, l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui pourra dévorer, et le tesson nous donne l'enseignement, si précieux, si salutaire, que notre salut est dans la fuite. Comme ce petit animal. Et nous avons à maintenir cette vérité dans un sentiment de dépendance, car il n'y a rien de nous. La peau de tesson est un enseignement extrêmement important à cet égard. Ensuite, pour arriver bientôt à la fin de cet entretien, nous avons le chandelier. Le chandelier aux 7 branches qu'il fallait porter sur une perche. sont devenus aux images de Christ en association avec les siens par lesquels la lumière est répandue. Nous étions ténèbres. D'abord, le sang de Dieu, comme on a souvent vu, comme on a souvent dit, c'est Christ lui-même. Il était fait d'un seul bloc d'or, d'un talent, 49 kg 500. Il était battu au marteau. Ce ne sont pas des pièces rapportées sur la tige centrale. Tout provient du même bloc d'or pour nous montrer la parfaite unité du travail, la beauté du travail, la difficulté du travail. Le chandelier battu au marteau, les souffrances qui furent sa part, avec le résultat que toutes les branches tirées de lui, ceux qui étaient ténèbres autrefois, maintenant, celui qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui, peuvent répandre sa lumière. Et Paul souhaite que nous soyons tous des luminaires pour Christ dans ce monde. Et ce chandelier, image de Christ en association avec les siens, autre figure si saisissante et si importante et en même temps si consolante pour le cœur, devait être porté sur une terre. On le voyait certainement de loin. Son poids, sans doute, nécessitait que l'on le porte sur une terre. Et quel témoignage nous avons à rendre au fait que nous sommes unis à Christ. Maintenant, la lumière est répandue par les siens. La lumière céleste, lui, il fut la lumière du monde dans tout son éclat. Je suis la lumière du monde. Et nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. De quelle manière rendons-nous ce témoignage dans ce monde, au milieu des ténèbres qui nous entourent? Fallait donc porter ce chandelier sur une perche, rendre ce témoignage que celui qui est venu dans ce monde comme la lumière, par la vie qu'il nous a donnée, nous rend maintenant capables d'être lumière dans le Seigneur. Ensuite, il y avait l'autel d'or, l'autel du culte. Et enfin, l'autel d'airain sur lequel les sacrifices étaient offerts, brûlés. À cet égard, quelle belle image nous avons, pour l'abréger un peu, quelle belle image nous avons dans le drap de pourpre qui recouvre cet autel. Il fallait d'abord ramasser les cendres, le résidu de la combustion de la sainte victime. Non pas à demi-cuit, ni cuit dans l'eau, mais rôti au feu, disait l'Éternel. L'intérieur, la tête et les jambes, l'autel du calvaire. Et ce jour dernier, avec quelques amis, nous avions l'occasion de rappeler la capacité de l'autel dans le second livre des Chroniques, en relation avec la maison de l'Éternel, 20 coudées de largeur, la mesure divine, rappelée par les chérubins qui étendent leurs ailes, 20 coudées comme la mesure de l'oracle du lieu très saint de la maison de l'Éternel. Les chérubins qui requièrent selon la justice la sainteté inflexible divine. Mais quel bonheur pour nous! L'autel, tout aussitôt, nous est donné dans ses dimensions, 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, capable de soutenir le poids du jugement de Dieu qui tombe sur lui de tout son poids. Dieu, déployant ainsi tout ce qu'il est en lui-même, en sainteté et en justice, maintenant glorifié, parfaitement glorifié, infiniment plus glorifié que par une humanité restée dans l'innocence, disait un de nos chers devanciers. Il peut maintenant bénir l'homme. Mais celui qui a souffert, qui a été pendu au bois, crucifié, qui n'a pas caché sa face à l'opprobre et au crachat, et donné ses joues à ceux qui arrachaient le poil, celui que l'homme a méprisé, Dieu l'a haut exalté, Dieu l'a glorifié. Le drap de pourpre nous parle de sa gloire comme fils de l'homme, car Dieu lui a donné tout le jugement
parce qu'il est le Fils de l'homme, parce qu'il a souffert, parce qu'il est mort, il a le droit de juger tous les hommes. Il est établi juge des vivants et des morts. Et si ses droits ont été méprisés, foulés en terre, Paul nous dit de la manière la plus formelle, il faut qu'il règne. Et l'homme de douleur, l'homme du calvaire, demain, c'est lui qui pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Elle se fend par le milieu. Il fait entendre sa voix, rugissant comme le lion, pour réclamer ses droits. Et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Le bras de Paul qui nous parle de la gloire, de sa gloire comme fils de l'homme, Dieu a établi toutes choses sous ses pieds, au ciel comme sur la terre. Il l'a glorifié et ce chef sur toutes choses, celui qui est chef sur toutes choses, a reçu la récompense suprême. Dieu l'a donné, ce chef sur toutes choses, à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude, le complément de celui qui remplit tout et en tous. Et il règnera avec sa chère Église. Un dernier mot, nous nous excusons d'être un peu longs. Il y avait un danger dans le chef des fils de Kilat. Et l'Éternel dit, faites ceci afin que les fils de Kilat ne meurent pas. Et plus loin, dans le chapitre 18, c'est notre mémoire est fidèle. Et vous avec eux, dit le Seigneur. De quoi nous parle ce danger, cet avertissement si solennel? Faites ceci que les fils de Kilat ne meurent pas. En s'approchant pour voir un instant. Toute petite parenthèse, vous avez vu la note voir un instant, c'est-à-dire le temps d'avaler. Pour ne pas porter notre pensée sur ce moment qui est proche, ou comme le dit l'apôtre, en un instant, en un clin d'œil, nous allons nous trouver avec le Seigneur. Un instant, note de ce chapitre du livre des Nombres, c'est-à-dire le temps d'avaler. Et nous sommes avec le Seigneur. En un instant, le temps d'avaler, et nous voilà avec le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais jusque-là, nous avons à veiller. Nous avons à nous confier en lui sans doute, à rechercher la grâce dont nous avons besoin, car les fils de Kilat couraient un danger, celui de mourir si ils s'emparaient du service des fils d'Aaron. S'ils entraient dans le lieu saint pour voir un instant, pour se substituer aux fils d'Aaron, Dieu était formel, la mort devait intervenir. Quelle sanction! Et de même, les fils d'Aaron, se laissant prendre leur charge, allaient mourir aussi. Eh bien, cher ami, ne pouvons-nous pas dire tout en prenant notre part à cette ruine générale, n'est-ce pas ce que le Seigneur dit à une des sept églises dans l'Apocalypse, après un si beau commencement, après un réveil si éclatant, le Seigneur va dire, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. La mort est intervenue là où la vie de Dieu avait à se développer, où le Seigneur avait l'intention de développer cette puissance de la vie nouvelle qu'il nous a donnée par les fruits du Saint-Esprit. Notre laisser-aller, l'affaiblissement de nos affections pour le Seigneur a entraîné quoi? Entraîné la nécessité des fils de Kilat de s'emparer de la sacrificature, c'est-à-dire introduire le clergé. Et la mort est intervenue. Alors, au milieu de cette ruine sans remède, par la grâce de Dieu, le Seigneur a révélé nos chers devanciers pour maintenir un témoignage rendu à la pleine suffisance de son nom, à la présence et l'opération du Saint-Esprit au milieu de nous, vérité des plus précieuses, héritage sans prix qui nous a été confié, que le Seigneur nous accorde de le retenir, de l'apprécier d'abord, de le retenir avec la grâce qu'il accorde et qu'il désire donner à chacun de nous.
chapitre 21. Josué, chapitre 21. Et les chefs des pères des Lévites s'approchèrent d'Éléazar, le sacrificateur. Et de Josué, qui venant, et les chefs des pères, le début des fils d'Israël, et leur parlèrent à Silo dans le pays en disant, l'Éternel a commandé par Moïse qu'on nous donna des villes pour y habiter, et leur grand lieu pour nos bêtes. Et les fils d'Israël donnèrent de leur héritage aux Lévites selon le commandement de l'Éternel, celui-ci, avec leur grand lieu. Et le lot échut aux familles de Kehathites. Verset 9. Et ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon, celui-ci, qu'on nomma par leur nom, et qui furent pour les fils d'Aaron des familles de Kehathites entre les fils de Lévi. Car le premier lot fut pour eux. On leur donna Kiriath Arba, Arba était père d'Anak, Seth et Hébron, dans la montagne de Juda et sa banlieue autour d'elle. Mais la campagne de la ville et ses hameaux, ils les donnèrent à Caleb, fils de Jephunné, pour sa possession. Et ils donnèrent au fils d'Aaron, le sacrificateur, la ville de refuge pour l'homicide, Hébron et sa banlieue. Et les autres villes. Nous arrêtons là pour l'instant. Pensons, chers amis, que nous aurons intérêt à poursuivre cette intéressante histoire des Lévites. Dieu avait changé le cœur de Lévi et il donne à ses fils des privilèges extraordinaires. De fils de colère, les voilà devenus des bien-aimés de l'Éternel, comme nous tous qui avons mis notre confiance dans l'œuvre de la croix, enfants de colère, fils de la désobéissance, nous voilà devenus de bien-aimés enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a fait don et introduit dans les privilèges les plus élevés. Lévi a trois fils, Gershon, Kehath, Merari. Kehath aura quatre fils, dont Amram, qui sera le père d'Aaron, de Moïse et d'Aaron, comme nous l'avons vu. Dans cette branche des fils de Kehath, Aaron est tiré pour être le chef de la famille sacerdotale. Nous avons vu ensemble, faiblement sans doute, que nous étions tous des Lévites et à la fois des fils d'Aaron. Joint à Aaron, mis à part pour être très saint, type de Christ, notre grand souverain sacrificateur, à la suite duquel nous entrons dans les lieux saints, le voile ayant été déchiré par un chemin nouveau, vivant par le sang du Christ, le sang précieux qui a coulé à la croix, la vie donnée, Dieu ayant été glorifié, et tous nos péchés pardonnés. Les fils de Kehath, les Lévites, sont donnés en pur don à Aaron et à ses fils, comme les dons et les charges dans l'assemblée en vue du bien de l'édification de l'assemblée et de la gloire du Seigneur. Ils étaient engagés d'une manière particulière, personnellement, en portant sur l'épaule. Et ils avaient apporté, nous l'avons vu, les ustensiles les plus précieux. L'arche, type de Christ, comme nous l'avons essayé de le voir ensemble. La table des pains de proposition, Christ dans son association avec les siens. Car nous formons un seul corps, dont la tête est lui-même, Christ comme homme, glorifié au ciel. Nous avons vu le chandelier alimenté par l'huile, la lumière produite par l'énergie du Saint-Esprit dans les siens, éclairant le chandelier lui-même, la tige centrale, le Saint-Esprit qui glorifie le Seigneur descendu dans ce monde, dans ce but, celui-là me glorifiera.
l'autel de l'encens, avons-nous vu, image du culte, de l'encens que nous faisons monter devant Dieu, lui présenter toutes les gloires de son Fils, lorsque nous sommes réunis pour adorer le Père en esprit et en vérité, raconter au Père toute la gloire de son Fils. Et enfin, l'autel des reins, image si saisissante de la croix, autel recouvert d'un drap de pourpre qui annonce les gloires futures, bientôt manifestées de celui qui a été humilié, abaissé, qui est descendu dans la mort, mais que Dieu a glorifié et a fait asseoir sur son propre trône. Enfin, nous avons vu le danger que l'Éternel signale à l'égard d'une confusion possible ou d'une substitution possible des rôles que chacun devait remplir. La carence, la faiblesse ou la méconnaissance des privilèges de la famille d'Aaron entraîné leur substitution par des Lévites. Nous avons vu qu'il y avait là une image, hélas bientôt survenue dans l'Église, de l'introduction du clergé, le formalisme, la routine, coup de mort à toute spiritualité. Et l'Éternel disait, prenez garde que vous ne mouriez les uns et les autres en abandonnant vos privilèges et en les remplaçant par ce qui est purement l'activité humaine, car Dieu ne reconnaît au milieu des siens que l'activité de son esprit. Le tout sous la direction d'un homme remarquable, Éléazar, secours de Dieu, car nous sommes secourus par celui qui nous représente devant Dieu, paraissant devant la face de Dieu pour nous et obtenant tout le secours dont nous avons besoin, dans quelque aspect que ce soit de notre vie ou de notre activité, à remplir pour le Seigneur. Éléazar, secours de Dieu. C'est lui qui avait la surveillance de tout le service du tabernacle. Il avait la surveillance de l'huile, et nous ne sommes pas sans ressources, nous ne sommes pas sans direction, nous avons quelqu'un qui est bien plus grand qu'Éléazar, bien que portant un nom remarquable, prince des princes. Mais celui qui est notre grand souverain sacrificateur est roi des rois, seigneur des seigneurs. En ouvrant le livre de Josué, nous continuons cette histoire intéressante des Lévites et nous faisons un bond en avant d'une quarantaine d'années. L'arche qu'il portait sur l'épaule est entrée dans les eaux du Jourdain. Image, comme nous le savons, souvent rappelée de la mort du Seigneur, à laquelle nous avons part. Dans la mer Rouge, à la mer Rouge, nous avons la rédemption par puissance. Dieu prend contre lui tous nos ennemis et il se trouve défait par la mort. Dieu délivre de la mort. Dans le Jourdain, autre image, autre tableau de la mort du Seigneur, c'est notre mort, c'est l'image qui nous montre notre mort avec Christ, non plus Christ mourant pour nous, mais nous-mêmes prenant fin dans la mort, comme homme en Adam, pour être introduit en Canaan dans les lieux célestes, là où se déroule notre combat selon Éphésiens 6. Le Jourdain, image de la mort, par laquelle Dieu nous délivre, non plus de nos ennemis, mais de notre état, de ce que nous sommes en nous-mêmes, du vieil homme, de la chair en nous. Introduit dans la terre de Canaan, la promesse de Dieu s'est accomplie, il désire habiter au milieu de son peuple, il le fait dans le tabernacle, et il s'agit maintenant de partager le pays entre les tribus d'Israël, pour que chacun ait sa possession. Nous avons remarqué dans la lecture ce qui était dit plusieurs fois par Moïse, les Lévites n'avaient aucune possession en Israël. L'Éternel dit, je suis leur héritage. leur possession. Je serai le seul objet de leur activité. Quelle belle image pour nous, chers amis, car nous avons été sauvés pour servir le Seigneur, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui, qui pour chacun de nous, qui avons le bonheur de le connaître, est mort et a été ressuscité. Le fils de Lévi ne s'embarrassait donc pas des choses de ce monde, dont une image pour nous, du fait que nous sommes étrangers, forains ici-bas. Dieu ne nous a rien donné dans ce monde. Un de nos chers devanciers, nous l'avons quelquefois rappelé, on lui disait, quel dommage, il s'agit de William Kelly, quel dommage, Monsieur Kelly, qu'un homme aussi brillant que vous se soit laissé enfermer dans cette espèce de congrégation où, vu ses étroites, vous auriez pu briller dans ce monde, vos parents auraient pu avoir beaucoup d'éclat. Et nous connaissons sa réponse, mais de quel monde vous me parlez-vous? Car il y en a deux. Il y a le monde habité à venir dont nous parlons, dit l'apôtre. Le monde dans lequel nous vivons est encore aux mains de l'usurpateur. Nous n'avons aucune part, aucune portion, aucun droit dans ce monde. Dieu ne nous a rien donné. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais il aura ce royaume, il aura dans son royaume l'administration du monde, la domination sur celui-ci, car il dit à Pilate, maintenant mon royaume n'est pas de ce monde, mais il le sera bientôt. De sorte que les Lévites sont une image du croyant qui n'a rien dans ce monde. Le Seigneur est ma part, mon salut, mon breuvage. Il répond pleinement à tous mes besoins. Rien d'autre que lui ne peut me rendre parfaitement heureux. Les fils de Lévi doivent donc recevoir une part au milieu de l'héritage de leur frère, doivent hériter certaines villes que des tribus doivent leur octroyer. Et n'est-ce pas intéressant de voir que d'abord il s'agit des Kehathites, de cette famille si privilégiée. Le lot échu aux familles des Kehathites. On jette le sort dans le géant, et le sort est de par l'Éternel. Et quelle est la portion qu'il va donner aux fils de Kehath? Ils donnèrent de la tribu des fils de Judas, de la tribu royale, le cœur même de cette tribu, Hébron. Et il est dit, pour les fils d'Aaron, les familles des Kehathites, car le premier lot fut pour eux, c'est-à-dire Hébron dans la montagne de Juda. Quelle association de pensées heureuses! Le premier lot, en quelque sorte le meilleur des lots, est attribué aux Kehathites pour les fils d'Aaron, image des croyants en association avec Christ. Quel est le premier lot que se reçoit? Le premier lot. Le meilleur lot. Nous devons retourner loin en arrière et suivre les traces du père de la foi. Un homme qui pouvait dire, car il marchait avec Dieu, et Dieu n'a pas honte de dire, il est mon ami. Il pouvait dire, je suis étranger parmi vous et j'ai besoin d'un champ pour y enterrer ma compagne. Pouvez-vous me donner, au bout d'un champ qui appartient au fils de Heth, à Macpéla, une caverne pour y enterrer mon mort? Voilà tout ce qu'Abraham possédait dans la terre qui lui appartenait, mais où il n'était qu'un étranger en attendant l'accomplissement des promesses, n'ayant que sa tente et son autel. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous, lui répond-on, car Abraham était conséquent avec la profession de sa foi. Et il reçoit, au bout d'un champ, cette caverne de Macpéla pour y enterrer son mort. C'est Hébron. Là où Isaac et ses fils seront enterrés, où Jacob, avant de retirer ses pieds dans le lit, fera promettre solennellement qu'il sera enterré dans cette caverne qui a été acquise à prix d'argent par son grand-père Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a mis sa confiance dans le Dieu qui ressuscite les morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et au-delà de toute la scène présente, il porte ses regards sur la cité qui a les fondements, dont Dieu est l'architecte et le créateur, et il entend, il souhaite être enterré là, dans la terre que Dieu lui a promise, en vue de la résurrection, pour jouir de tous les résultats de l'œuvre accomplie, de tous les résultats du sacrifice du vrai Isaac. Car nous avons souvent remarqué dans cette lecture, Abraham ne dit pas à son fils, mon fils, Dieu nous pourvoira de l'agneau, mais il dit Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. La vue d'Abraham se porte bien plus loin. Au moment où nous sommes entrés dans la terre de la promesse, un homme âgé de 85 ans, d'une énergie peu ordinaire, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel portent des fruits encore dans la blanche vieillesse. Il est verdoyant, plein de vigueur. C'est Caleb, et il peut dire, je suis encore fort aujourd'hui à l'âge de 85 ans, comme il y a 45 ans, lorsque Moïse nous a envoyé reconnaître le pays. Et tu sais, dit-il à Josué, que j'ai suivi pleinement l'Éternel. Quel homme admirable, homme de foi, au mépris de sa vie, et contre tous ses compagnons qui décrivent le pays en raison de l'existence des géants qui les ont effrayés, lui tient ferme, comme voyant celui qui est invisible, car il a placé l'Éternel entre les géants et lui-même, et en s'appuyant sur l'Éternel, sur les promesses qu'il a faites, il peut dire, nous sommes bien capables de nous mesurer avec ces géants, car l'Éternel est pour nous, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le temps est venu maintenant de donner à Caleb la part qui lui revient dans le pays. Que va-t-il demander à Josué? Escol, d'où l'on a tiré une grâce si remarquable? Non, Caleb a bien compris que ce n'est pas encore le temps du repos. Chacun peut voir sous sa vigne et sous son figuier qu'il faut encore combattre. Et qu'à Hébron, à Kiriath Arba, il y a un géant redoutable et ses trois fils. Et Caleb, à son âge, dira, bien, donne-moi Kiriath Arba, donne-moi Hébron pour mon héritage, cette montagne. C'est celle-là que je désire, que je convoite. Quelqu'un qui voit les choses selon l'homme aurait pu répondre à Caleb, mais tu manques de sens. Quel prix peut avoir pour toi un bout de champ avec une caverne où il n'y a que des sépultures? Mais il a compris que la mort serait vaincue un jour et qu'en attendant pour le croyant, elle est sa délivrance, car elle est la fin de la tyrannie du moi, elle est la fin du vieil homme. Comme nous avons essayé de le voir par l'image du Jourdain. Et cet homme va recevoir Hébron. Et ensuite, les Kéatites vont eux-mêmes posséder Hébron, la ville elle-même, tandis que les hameaux seront laissés, seront donnés, maintenus à Caleb. Mais arrêtons-nous encore un instant. Il y a donc Anak et ses trois fils, avec lesquels il faut se mesurer. Mais notre ennemi est un ennemi vaincu. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Notre foi en un Christ vivant, victorieux. Quels sont les trois fils d'Anak? Qui est Anak qu'il faut vaincre, et ses trois fils? Anak, évidemment, type du géant redoutable qui tient l'homme captif, l'homme fort, à l'égard duquel Esaïe s'écriait, mais l'homme qui est justement captif sera-t-il un jour délivré? Pourrons-nous un jour nous soustraire à ce sort que personne ne peut briser, impuissants que nous sommes, sous cette main qui nous tient captifs, celui qui détient le pouvoir de la mort? Mais s'il en survient un plus fort que lui et qu'il le vainque, et l'homme fort apparu dans ce monde, bon abaissé, humilié, crucifié en faiblesse, en infirmité, mais dans sa défaite apparente, remportant la victoire extraordinaire, incomparable, sur toute la puissance du diable, mettant fin à celui-ci, à son pouvoir. Caleb a saisi quelque chose de cela, si indistinctement que ce soit. Et quels sont les trois fils de cet Anak? N'est-ce pas Jean qui nous les nomme? Ce qui anime le monde, le principe même du monde, le ressort moral du monde, le train de ce monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne sont-ce pas là les trois fils du géant qui tiennent l'homme captif et avec lesquels Caleb veut se mesurer? Que va faire Josué en présence d'un homme aussi remarquable? Josué le regarde émerveillé et Josué le bénit. Josué, type de Christ, bénit Caleb, comme nous le sommes dans le chemin de la foi. Seigneur, se plaisante à bénir ceux qui marchent ainsi dans le chemin qu'il nous a tracé, chef et consommateur de la foi. Ce premier lot hébreu est donc attribué au fils de Kéat, au fils d'Aaron. Au Kéatite, au fils d'Aaron. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. N'est-ce pas notre lot bien-aimé de nous choisir? Que nous avons été amenés à Dieu au prix de sa mort sanglante, que nous rappelons que nous avons le bonheur et le privilège de rappeler ensemble, dans sa présence chaque dimanche matin, n'est-ce pas notre premier lot, Hébron, la mort de Christ, sa mort sanglante sur la croix, lui le saint et le juste, afin de nous amener à Dieu. Le premier lot fut pour eux, pour la famille d'Aaron, image de l'assemblée. Et cette ville d'Hébron, chose remarquable, devient une ville de refuge. Que d'enseignements nous pourrions recueillir de ce qui est là devant nous? La ville de refuge. Comment Pierre parlera-t-il aux Juifs? Ne parlera-t-il pas en quelque sorte de la ville de refuge qui est ouverte en faveur de ceux qui sont considérés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et en vertu de la première auguste parole de la première des augustes paroles de la croix? Père, pardonneur, ils ne savent ce qu'ils font. En vertu de cette intercession du Seigneur, Pierre pourra leur dire: je sais que vous l'avez fait par ignorance, la grâce de Dieu consentant attribuer le crime qu'ils ont commis à leur ignorance et leur ouvrant la porte de la ville de refuge. Sauvez-vous de cette génération perverse, car la colère est prête de tomber sur elle. Le vengeur du sang est en route. Titus, quelques années plus tard, serait en chemin pour régler le compte de ceux qui auraient bouché leurs oreilles, fermé leur cœur aux appels de la grâce. Et le sac de Jérusalem, chacun de nous, en a vu quelque chose dans ces jours-là, demeure un témoignage saisissant, impressionnant, solennel, de ce qu'est le gouvernement de Dieu, de ce qu'est sa colère quand nous l'obligeons à employer la verge et à donner, à allumer sa colère. Mais ceux qui ont eu le cœur saisi de compunction, sont entrés dans la ville de refuge. Et tous ici, chers amis, sommes-nous entrés? Enfants, chers enfants de parents chrétiens, vous êtes-vous réfugiés vous-même personnellement, car la foi est quelque chose d'intime, de personnel? Vous êtes-vous enfoui vous-même pour entrer dans la ville de refuge, à l'abri du sang de la croix? Et tous ceux qui furent sauvés, qui ont entendu l'appel de Pierre, par la repentance et par la foi, sont entrés dans l'assemblée, ajoutés au Seigneur, ajoutés à l'assemblée. Car ce n'est pas assez, disons-le en passant, pour Dieu, de sauver une âme, si important que cela soit, mais la pensée de Dieu et le travail incessant du Saint-Esprit, c'est d'introduire une âme tirée du monde, de la carrière du monde, dans l'assemblée, dans la connaissance et la jouissance de sa position en Christ comme une pierre vivante, comme un membre vivant du corps de Christ, non pas comme hélas on le fait aujourd'hui, prêcher l'Évangile et puis laisser une âme désemparée au sein de cette ruine sans savoir quel chemin prendre. Ce n'est pas le travail de l'Esprit de Dieu. Il n'a de cesse qu'après avoir introduit cette âme dans l'Assemblée, dans la vie virtue, dans la jouissance de ses privilèges, en association avec Christ, entrer déjà dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes avec lui. Le premier lot fut pour eux, Hébron et la ville d'Orpule. Que d'enseignement, j'aime. Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder, le sujet est vaste, et nous aimerions faire maintenant un bond en avant dans l'histoire du peuple, un bond conséquent de plusieurs siècles, de 4 siècles environ. Et si vous voulez bien, nous ouvrions la parole de Dieu au premier livre des Chroniques. Nous ouvrirons le premier livre des Chroniques au chapitre 23. Et David était vieux et rassasié de jours, et il établit Salomon son fils, roi sur Israël. Et il assembla tous les chefs d'Israël, et les sacrificateurs et les Lévites. Et on dénombra les Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, et leur nombre par tête, par homme, fut de 38 000. Retenons ce chiffre. Il y en eut d'entre eux 24 000 pour diriger l'œuvre de la maison d'Éternel, et 6 000 intendants et juges, et 4 000 portiers, et 4 000 qui louaient l'Éternel avec les instruments que j'ai faits, dit David, pour louer. Et David les distribue en classe d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Au verset 24, plus ce sont là les fils de Lévi selon leur maison de père. Les chefs des pères selon qu'ils furent recensés en comptant les noms par terre. Ils faisaient l'œuvre du service de la maison d'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il demeurera à Jérusalem pour toujours. Et les Lévites aussi n'auront plus à porter de tabernacle ni tous les ustensiles pour son service. Car c'est selon les dernières paroles de David que se fit le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car leur place était à côté des fils d'Aaron pour le service de la maison d'Éternel, pour veiller sur les parvis et les chambres, et sur la purification de toutes les choses saintes, et sur l'ordre du service de la maison de Dieu, pour les pains à placer en rangée, et la fleur de farine pour le gâteau et les galettes sans levain, et ce qui se cuit sur la plaque, et ce qui est mêlé avec de l'huile, et toutes les mesures de capacité et de longueur, et pour se tenir là chaque matin, afin de célébrer le nouvel éternel et de même chaque soir, et pour être de service pour tous les holocaustes que l'on fait à l'éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes, aux jours solennels. Verset 32, et ils vaquaient à leur charge à l'égard de la tente d'assignation, et à leur charge à l'égard du Dieu Saint, et à leur charge à l'égard des fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'éternel. Chapitre 24, verset 31. Et eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, qui restent au sort devant le roi David et Sadoc et Akimélec, et les chefs des pères des sacrificateurs, et des Lévites, les chefs des pères, comme le plus petit d'entre leurs frères. Verset 8 du chapitre 25. Et ils jetèrent les sorts pour leur charge, le petit comme le grand, l'homme expert avec le disciple. Arrêtons-nous là quelques instants, si vous voulez.
qu'Israël firent de nos cœurs.
David, après tous ces combats, toutes ces luttes, toutes ces souffrances, aurait aimé construire, bâtir la maison de l'Éternel. Mais cela sera plutôt attribué à Salomon, Jédidia, le pacifique. Le vœu de David était de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel. Car le royaume vient d'être établi en la personne de David. Et nous avons remarqué que la couronne a été placée sur sa tête, précisément à Hébron. Car la croix et la gloire se touchent. Où faut-il monter pour recevoir la couronne ? Demande David bien humblement à l'Éternel lorsque le chemin du trône s'ouvre devant lui après avoir pleuré sur la ruine d'Israël battue devant ses ennemis. Monte à Hébron, c'est à Hébron, au lieu des sépulcres, au lieu de la mort, que l'Éternel place la couronne sur David. Mais il faut deux types pour nous parler de lui. David dans sa souffrance, Salomon dans sa gloire. Et c'est lui, c'est en relation avec la gloire que la maison sera bâtie, mais préparée par David. Et quand on lit dans le premier livre des Chroniques, et nous avons tort de ne pas lire lorsqu'il y a des généalogies, car il y a des termes introduits dans ces généalogies. Toute écriture est inspirée. Il n'y a aucune partie de la parole de Dieu que nous avons à considérer légèrement. Quand on lit dans ce premier livre des Chroniques, chapitre 22, Seigneur, premièrement, les fidèles, on demeure émerveillé devant les sommes incalculables qui dépassent l'entendement humain que David a accumulé au jour de sa souffrance, en or et en argent, en vue de construire le temple. Il n'y a pour saisir cela que le trône d'Apocalypse 5, l'agneau immolé, tant de souffrance, uni à tant de gloire, au milieu du trône, lorsque nous le verrons, la richesse, l'honneur, la gloire, la puissance, tout lui est donné. J'ai préparé dans mon affliction pour la maison d'Éternel des choses extraordinaires. Maintenant, il n'y a pas d'interruption entre le règne de David et celui de Salomon. Il s'asseye sur le même trône, il monte sur la même mule pour nous montrer que celui qui est descendu dans les parties inférieures de la terre, qui a été crucifié, qui a été humilié sur la terre, est le même que celui qui occupe maintenant la place suprême de gloire. Et on fait le nombre maintenant sous la direction de David, de tous les Lévites. Et David va les distribuer dans leur place. Et une partie d'entre eux, d'une manière particulière, sera affectée au culte de l'Éternel, au chant dans la maison d'Éternel, car on n'a pas chanté dans le tabernacle. Lorsque l'Éternel allait de demeure en demeure avec son peuple à travers le désert. Mais maintenant, nous aurons peut-être l'occasion de le voir quand l'arbre va entrer dans la maison de son repos. Quel cantique extraordinaire, impressionnant, va résonner sous les voûtes du temple lorsque l'arche entre dans le Saint des Saints, dans le lieu de son repos. Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos. Et lorsque tous ensemble, ils chantent ce cantique, célébrez l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. La louange millénaire, la louange du royaume millénaire, elle est anticipée au temps de Salomon, sans doute. Cela ne dure la guerre, mais quel beau commencement, quelle belle illustration de la gloire à venir, lorsqu'il sera roi sur son trône à Jérusalem, réunissant à la fois la fonction de la sacrificature et de la royauté, la couronne sur sa tête, roi.
roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous en avons une image, une anticipation au jour glorieux de Salomon. Et il chante dans le temple avec les instruments que j'ai faits, dit David. Des instruments à vent, des instruments à cordes, à percussion, ont été faits, inventés par David. Dans quel temps, chers amis? Quel encouragement pour nous? Dans le temps où David est un homme jouissant du pouvoir, de la gloire, assis sur son trône, c'est la partie la plus décevante de la vie de David. Mais un David pourchassé, un David souffrant, un David connaissant, allant d'antre en antre au désert, de refuge en refuge pourchassé, quelle arche à partir de laquelle et sur laquelle Dieu va tirer des mélodies aux résonances insurpassables. Au jour de sa souffrance, quand est-ce que le psaume 45, si beau, si élevé, a été composé? Au jour où ils connaîtront la détresse de la grande tribulation et qu'ils diront chaque jour, jusque à quand, ô Éternel, pressés qu'ils seront, opprimés qu'ils seront, plongés dans des circonstances et difficultés à nul autre comparable. C'est alors qu'ils forgent, qu'ils sont en train de rédiger, de composer ce cantique sublime. J'ai composé ce chant pour le roi. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole, non pas dans la prospérité au temps de David, mais au temps de sa souffrance. Dans ces Lévites qui sont maintenant distribués par classe, à partir du moment où Salomon est sur le trône, nous pouvons nous pas voir en image les dons qu'il a donnés. Ayant amené captive la captivité tout entière, il a donné des dons aux hommes. Et en voici une petite image, et chacun à sa charge, chacun à sa fonction, en vue de la gloire de l'Éternel au-dessus de tout, et en vue du bien des fils d'Aaron, car toute charge, tout service, si faible puisse-t-il paraître, est donné par le Seigneur en faveur des fils d'Aaron de l'Assemblée pour son édification, pour sa consolation, pour la gloire du Seigneur. Si nous avions le temps, nous pourrions nous arrêter sur quelques détails, mais vous pouvez le faire bien mieux que nous, car dans ce chapitre, ils ont maintes et maintes choses à faire à côté des fils d'Aaron pour le service de la maison d'Éternel. D'abord pour veiller sur les parvis et sur les chambres. Les Lévites, certains d'entre eux étant portiers, avaient à veiller sur les parvis et sur les chambres. Et ils le faisaient toute la nuit, car la nuit est propice à l'ennemi pour introduire des éléments douteux au sein de l'Assemblée, dans la maison de Dieu. Et ils avaient la clé et ils ouvraient la porte de la maison que chaque matin, disons-nous dans ce premier livre des Chroniques. Première chose, à l'ange de l'Assemblée, première chose, c'était de veiller sur les chambres, sur les parvis, sur la purification de toutes les choses saintes, la sainteté sied à sa maison pour de longs jours. Et nous devons cela à la gloire de celui qui veut bien venir au milieu de nous, et au nom duquel et autour duquel nous nous rassemblons. Sa présence est réelle, infiniment réelle, mais elle est à la fois pure et elle ne peut être compatible avec la présence du mal quel qu'il soit. Présence réelle, présence pure, il est le saint et le véritable. Présence aussi pleine douceur, qui ne rencontre aucune infirmité, aucune douleur, sans y apporter sa sympathie divine. Mais, en veillant à ce qui lui est dû, à la gloire de son nom, veillez sur la purification de toutes les choses saintes, sur les pains à placer en rangée, sur la fleur de farine, ce qu'il est dans sa personne, la gloire de sa personne à maintenir, la vérité essentielle que l'Assemblée, dont l'Assemblée est constituée, la colonne et le soutien. soutien, non pas qu'elle enseigne, mais elle est la colonne et le soutien de la vérité. Et tout aussitôt, l'apôtre introduit l'essence même de la vérité. Dieu a été manifesté en chair, a été vu des anges, maintenir la pureté dans la maison, maintenir la gloire de sa personne dans les pains, dans la fleur de farine, la sainte humanité sans tache qu'il a revêtue, dans tout ce qui se cuit sur la plaque, ce qui est mêlé avec de l'huile, que d'enseignement, chers amis, nous sentons bien que nous ne touchons que les bords d'une étoffe incomparablement belle dans ces types et dans ces figures, comme l'Esprit de Dieu aime nous parler de lui, de tout ce qu'il est, de tout ce que Dieu contemple maintenant en son Fils ressuscité, par essence au regard du Père pour nous. Et enfin, les mesures de capacité, de longueur, ce qui est juste, ce qui est selon Dieu, sans acception de personne, sans acceptation de présent, dit la parole de Dieu. Auprès de Dieu, la balance a un fléau parfaitement horizontal, sans tenir compte d'aucune considération, comme nous les introduisons si facilement. Les mesures, les poids et mesures confiées à la garde et aux soins des Lévites, que d'enseignement. Enfin, être là chaque matin et chaque soir, pas seulement chrétien le dimanche, car vous voyez, c'est après seulement que nous avons, dans le verset 31, et pour être de service pour les holocaustes qu'on offrait à l'Éternel au sabbat et au jour solennel. Mais ils n'étaient pas au service de Dieu dans les jours solennels, le jour du sabbat seulement, mais ils étaient au service du Seigneur chaque matin et chaque soir. Et ensuite, cela les qualifiait pour être de service le jour de sabbat et le jour solennel. Comme cela nous sonde, comme cela nous parle à chacun, chers amis, autant pour celui qui le dit que pour celui qui l'entend. Vous pensez bien que nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais pour nous laisser sondés par la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, vivante, opérante, aiguë, à deux tranchants. Et enfin, si nous avons encore quelques instants, nous aimerions nous arrêter un instant sur le chant dans la maison d'Éternel. Dans les questions, dans le chapitre 25, vous pouvez le lire, et il y a là une considération bien consolante pour les parents dont nous sommes, qui ont rencontré ou rencontrent des échecs douloureux au milieu des leurs, pour lesquels ils demeurent courbés devant Dieu, qui était dans le temps à la tête de ces chants, qui entonnent ce chant magnifique, impressionnant, lorsque les deux